Nous voici pour cette cinquième rencontre du catéchisme dans lequel nous nous efforçons de tout tenir et de comprendre surtout le mouvement même et bien de cette foi qui nous habite. Nous avions vu un peu la semaine dernière, à la fois toujours le mystère de Dieu, celui du dessein éternel. Dieu veut faire de nous des fils. Et justement cette fin pour laquelle Dieu nous a créés, et ce qu'on appelle la béatitude, nous en avons parlé la semaine dernière, nous sommes créés pour le bien, pour cette vie éternelle que le Seigneur nous promet. Et nous avions du coup dit, et c'est ce que je reprends aujourd'hui, que en tant qu'homme, nous sommes créés in via, c'est-à-dire nous sommes ici-bas en chemin. Et si on chemine, c'est vers une fin bien particulière, que Dieu veut nous donner. Lorsque saint Thomas d'Aquin nous parle de cette fin, il dit, attention, l'homme, il chemine vers une fin, mais il y a une grande différence avec Dieu, c'est que Dieu est sa propre fin. Et du coup, nous, on a à cheminer pour une fin qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas, je vous le disais avec l'exemple de la tour de Babel, c'est pas à la seule force de nos bras que nous pouvons atteindre le ciel, que nous pouvons atteindre la béatitude. Il faut pour cela l'œuvre en nous de la grâce. De telle sorte, on a vu la semaine dernière, il y a notre nature, et dans l'économie originelle, chez Adam et Ève, cette nature, elle est immédiatement graciée. De telle sorte qu'il n'y a pas, il ne faut pas imaginer d'abord Dieu qui aurait créé Adam et Ève avec une nature pure, indépendamment de la grâce. Non, la nature telle que Dieu l'a créée en Adam et Ève, qui est une nature droite, qui n'est absolument pas viciée, qui est parfaitement en harmonie avec elle-même, avec sa volonté, avec les appétits sensibles, tout est parfaitement en place, c'est une nature, comme on dit dans la théologie, intègre. Mais cette nature, elle est immédiatement graciée, c'est-à-dire elle vit de plein pied de la vie de la grâce. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour la grâce. On a l'impression aujourd'hui, c'est surtout l'économie de la rédemption, voilà, l'homme n'est plus du coup dans la grâce, et alors du coup il faut que la grâce revienne, c'est vrai. Mais au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, leur nature est déjà une nature graciée, ils vivent de la grâce, ce qui veut dire qu'eux aussi sont en chemin, nature et grâce, vers cette gloire que Dieu veut leur donner. Je vous avais dit, ce dessein divin, Dieu qui veut faire de nous des fils, on peut appeler ça aussi la glorification. Et dans l'évangile selon saint Jean, le Seigneur Jésus parle souvent de sa glorification. Mon heure n'est pas venue quand le Fils de l'homme sera glorifié. Bon, pour le Seigneur Jésus, ça veut dire quand le Seigneur sera crucifié, c'est-à-dire quand il aura vécu le sacrifice du bois de la croix et qu'il sera relevé d'entre les morts. C'est ainsi qu'il parle de la glorification du Fils de l'homme. Et bien nous aussi, nous serons ainsi glorifiés lorsque nous recevrons la béatitude finale. Ça veut donc dire qu'avec les anges, nous qui formons avec eux, formerons une unique société, la société des créatures rationnelles, eh bien, nous devons acquérir notre béatitude. On avait vu ce bref instant dans lequel l'ange, eh bien, par le cheminement de la foi, est du côté de Dieu ou est contre Dieu. Serviam, je servirai, ou non serviam, je ne servirai pas. Et du coup, les démons ont suivi, eh bien, Lucifer, le prince des démons, dans son péché. En tous les cas, on doit tous acquérir notre béatitude. Ça veut dire on est en chemin. Mais on n'est pas mis en chemin comme ça pour attendre, on est mis en chemin pour acquérir cette béatitude. Mais je viens de vous dire que cette béatitude, elle nous dépassait. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas avoir le ciel à la seule force de ses bras, il nous faut la vie de la grâce, et pourtant je dis dans le même temps qu'il faut acquérir sa béatitude. Eh bien, c'est justement une question qu'affronte saint Thomas d'Aquin. La question est très simple. Quel est le sens de la vie humaine ? Et je vous ai dit, ce catéchisme, il nous permet de voir un peu tout le mouvement, ce mouvement qui sort de Dieu et qui retourne à Dieu. Quel est le sens de la vie humaine ? Eh bien, saint Thomas d'Aquin répond, le sens de la vie humaine, c'est de mériter la vie éternelle. Mais attention, mériter. Nous pouvons poser quelques actes qui seront méritoires, c'est-à-dire des actes qui manifestent au Seigneur notre bonne volonté, des actes qui manifestent notre conversion, des actes de pénitence pour, si vous voulez, réparer nos fautes ou réparer les torts des autres pécheurs. Eh bien, c'est comme cela que l'on mérite la vie éternelle. Il y a l'œuvre de la grâce qui agit en nous et nous qui, à notre petit niveau, eh bien, nous efforçons de mériter cette vie éternelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Dieu qui est la cause de notre béatitude. C'est Dieu seul qui peut véritablement, dans le régime de la rédemption, on dirait nous sauver. Mais pour Adam et Ève, on ne peut pas dire sauver puisqu'ils ne sont pas pécheurs. Donc Dieu allait de toute façon, par cette grâce qu'il leur donnait, il les attirait vers la vie éternelle déjà. Donc nous, on va dire, Dieu, il vient à notre secours, il vient nous sauver, mais là, Adam et Ève ne sont pas à sauver comme nous. Adam et Ève, eh bien, ils ont à cheminer ici-bas sur la terre pour ensuite aussi mériter leur vie éternelle. Donc Dieu est pour nous la cause de notre salut, de notre béatitude. Mais attention, c'est là où il y a une grande dignité de Dieu. Nous sommes comme des causes secondes de notre béatitude. C'est-à-dire, Dieu, il veut quand même que nous puissions acquérir la vie éternelle par notre coopération. Autrement dit, et là je le dis avec le vocabulaire de l'économie de la rédemption, donc du péché, de la chute, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Il aurait pu effectivement nous sauver en disant, bah après peu importe qu'ils s'en rendent compte, qu'ils s'en rendent pas compte, qu'ils m'aiment, qu'ils m'aiment pas, moi je les aime, je les sauverai comme ça, coûte que coûte. Mais Dieu, il attend quand même que nous coopérions. Et si on réfléchit, cette acquisition de la vie éternelle, de notre fin, de ce pourquoi on est sur la terre, eh bien, se fait par coopération, bien on se rend compte que finalement, c'est plus noble parce que Dieu est à nos côtés et c'est plus noble de pouvoir y coopérer parce que ça montre aussi à quel point l'amour de Dieu accorde à nous qui sommes ses créatures une dignité. Je dis, le grand dessein de Dieu, c'est de faire de nous des fils, pas des esclaves, des fils. Et du coup, le fils, il a la dignité aussi de ses parents. Le dauphin ou la dauphine qui sont le fils... fils et, ou la fille du roi de France et de la reine de France, le dauphin, il a quand même la dignité de son père, qui est le roi. C'est lui le prétendant au trône. Il y a eu la dignité de son père. Eh bien, nous qui venons ainsi de Dieu, mais on comprend que si le bon Dieu il veut nous sauver, il veut aussi que nous coopérions à cette œuvre de salut. C'est pour nous une question de dignité. C'est aussi manifester un double rapport, celui de la liberté et de l'amour. Je vous ai dit, il ne peut pas y avoir d'amour sans liberté. Et voilà, donc du coup, voilà pourquoi aussi Dieu veut que nous coopérions à ce salut. Tout à l'heure, on va reprendre toutes ces questions qui peuvent être un peu techniques en nous mettant à l'école de Saint-Augustin. Donc là, nous sommes des créatures en chemin. Dieu est notre propre fin, c'est la fin, c'est ce que nous recherchons dans ce bonheur éternel. Nous devons mériter la vie éternelle, c'est-à-dire nous devons coopérer à notre salut. Alors, je voudrais aussi insister, un peu en même temps, sur cette société que nous formons. Bien sûr, dans l'économie originelle, nous contemplons Adam et Ève. On pourrait même dire Adam puis Ève. Mais lorsqu'on considère ainsi Adam et Ève, on se dit, d'abord Adam est seul. Il fait l'expérience de sa solitude. Il fait l'expérience de sa solitude dans ce jardin lorsque... Dieu lui a donné pour mission de nommer les animaux. Donc Adam nomme les animaux et il se trouve en paradis que les animaux sont toujours en couple, le mâle et la femelle. Et déjà en âge, si vous voulez, de procréer, c'est la question, est-ce que Dieu a fait des... Non, déjà en âge, c'est comme Adam et Ève. Les Écritures ne nous disent pas qu'il s'agit d'enfants. Ce ne sont pas non plus des nourrissons. Parce que le nourrisson seul aurait eu un petit bébé Adam pendant 9 mois, il ne peut pas se développer seul. Donc déjà, Adam, si vous voulez, il est créé déjà en âge adulte. Il n'est pas non plus un vieillard, on ne le dit pas. Donc c'est un jeune homme, pourquoi serait-il vieux, on ne sait pas, mais c'est un homme déjà en pleine possession de tous ses moyens. Et puisque Dieu va leur dire « croissez et multipliez-vous », c'est qu'ils sont aussi en âge de se reproduire. Genre, je ne dis pas qu'ils ont la majorité 18 ans, comme nous avons dans nos cultures, mais en tous les cas... C'est un jeune homme, ça sera une jeune femme. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord de se dire la dignité que Dieu accorde à Adam et à travers Adam à l'ensemble du genre humain de nommer les animaux. Et Adam se rend compte, mâle, femelle, donc il leur donne les noms, des chevaux, de tous les animaux. Et après, il se rend compte que je n'ai pas trouvé ma paire, si on peut dire, en disant je suis homme, mais moi j'ai pas trouvé Et Dieu lui répond, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà qu'il va lui donner Ève. Mais voyez-vous, c'est pas comme on pourrait voir aujourd'hui, mais alors pourquoi d'abord l'homme de sexe masculin, pas la femme ? Non, parce que dans l'amour, il y a aussi le désir. Et voyez, je pense que s'il y avait eu, mais c'est une, s'il y avait eu immédiatement Adam et Ève comme ça, on va se dire Adam, bon, il n'a pas le choix, c'est Ève, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Et oui, mais Adam, il a expérimenté cette solitude et ce manque. En contemplant l'œuvre de création, en voyant les animaux mâles femelles, en disant mais moi je n'ai pas à l'aide. Et Dieu va lui dire voilà là. Et quand Adam, pardon, va voir Ève, oh, voilà la chair de ma chair et l'eau de mes os. C'est vraiment voilà la compagne. Il y a quand même quelque chose aussi du désir de se rendre compte que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit le Seigneur. Et voilà qui va lui faire l'aide. Ève. Bon. Quand on contemple ainsi Adam et Ève, on se dit bon, ben d'abord il y a Adam seul. Et puis ensuite, il va y avoir Ève, mais attention, Adam est à la tête du genre humain. C'est-à-dire, dans le récit de la Genèse, voilà que celui qui est au principe, si vous voulez, de la chaîne de l'humanité, c'est Adam et c'est Ève. Adam et Ève, que l'on appelle Ève, la mère des vivants. C'est comme si toute l'humanité était déjà représentée en Adam et en Ève. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers parents, hein, donc dans la chaîne, ce sont les premiers. On pourrait dire dans un vocabulaire un peu métaphysique, en métaphysique, il y a les choses qui sont en acte et les choses qui sont en puissance. Alors en puissance, ça veut dire qu'on va le devenir. Le petit enfant, ben, si vous voulez, le petit enfant, Mozart, prenons Mozart, il est enfant. Ben, nous qui le regardons comme ça de façon très théorique, on se dit ben, ça va être un grand musicien. Et quand il est tout petit et qu'il est né comme ça, il est musicien en puissance, il ne l'est pas encore en acte. Après, quand il va commencer à jouer, bon, mais là, voilà, il va commencer à être en acte, il va exceller après dans cette musique, et on pourra dire vraiment, c'est un musicien. Donc, quand on regarde comme ça Adam et Ève, on dit, ben, en puissance, dans Adam et Ève, hein, le premier mâle, la première femelle, donc, eh bien, est en germe tout ce qu'il y a à venir. Ce qui veut dire que Adam est à la tête du genre humain, et Ève également, hein, puisque c'est homme et femme qui les créa dans cette complémentarité. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, il faut aussi que nous puissions considérer en Adam et Ève déjà les fondements de la société humaine. Et nous étudierons ça les semaines qui viennent. Il y a une question qui a habité un peu l'histoire, mais surtout dans lequel le magistère a répondu aux alentours du XIXe siècle avec Léon XIII et quelques autres papes, quand il y a eu tous ces grands changements politiques après la Révolution française, de savoir mais qu'est-ce qui est premier, l'État ou la famille ? Ben, c'est la famille. Parce que c'est d'abord la famille, et ensuite c'est l'ensemble des familles qui vont fonder l'État. Hein, la nation, l'État. Donc du coup, c'est déjà important de se dire, attention, quand je considère ainsi Adam et Ève, je dois voir aussi à travers eux la société humaine. Ce qui veut dire que cette société, elle a une, cette vie comme ça en commun, pardon, cette, oui, cette société, on peut dire, c'est une communauté tout d'abord de fin. Hein, je vous ai dit, nous sommes tous en tant qu'hommes, nous poursuivons la même fin, c'est de parvenir à la gloire du ciel, de parvenir à notre béatitude. Alors on étudiera tout ça sur la notion du bien, donc je laisse ça un peu de côté, communauté de fin. C'est là où je vous dis qu'il y a les anges avec nous, parce que les anges, ils ont la même fin que nous. La différence dans le temps où nous sommes, c'est que les anges, eux, sont déjà dans la pleine vision. Ils contemplent déjà Dieu, alors que nous, on est encore en cheminement, ici-bas sur la terre. Mais il y a déjà la même fin. Donc, dans la vie de la société, la vie de la société humaine, elle n'est pas non plus, elle, dans la vision. Elle doit cheminer. Hein. Et dans cette société, on doit cheminer aussi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et quand on considère comme ça l'être humain, je vous disais, Adam n'a pas pu être un petit bébé placé en paradis. Pourquoi ? Parce que le petit bébé, le nourrisson, ben, il a besoin et de son père et de sa mère pour apprendre à parler, se repérer dans l'espace, savoir un certain nombre de choses. Donc du coup, ça veut dire aussi que les hommes ont pour vocation à coopérer les uns avec les autres. Et tout ça, on le développera dans les semaines qui viennent. Pour bien comprendre une chose, c'est que la vie en société, elle fait partie de la vocation de l'homme. Elle est déjà présente avant le péché, même si là on ne la voit pas florissante, puisque nos premiers parents vont pécher. Mais en germe, elle est déjà là, en paradis, cette société. Hein, croissez et multipliez-vous, le Seigneur ne dit pas ça après le péché. Et c'est très important, parce que du coup, Il va y avoir quelques querelles à ce sujet en théologie. Saint Augustin, dont nous allons parler aujourd'hui, pour Saint Augustin, la vie en communauté, étant donné qu'elle est viciée, qu'il y a des problèmes, il l'a fait venir après le péché. Or, Saint Thomas d'Aquin nous dit, attention, en Adam et Ève, toute la vie de la société humaine est déjà en germe. Hein ? Adam n'aurait pas cheminé seul, individuellement parlant, s'il fallait prendre des termes d'aujourd'hui. Non, parce qu'on a pour vocation de coopérer les uns avec les autres. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit avec les anges. Je vous ai dit, il y a une hiérarchie chez les anges, et les anges plus élevés ont pour vocation d'illuminer par leur intelligence les anges inférieurs, et voire même, tel un professeur qui s'adresse soit à des adultes, soit à des enfants de CM2, soit à des enfants de CE1, soit à des enfants de maternelle, il faut adapter son langage sans pour autant trahir la vérité. Donc du coup, c'est comme ça aussi que les anges, par dignité, eh bien, se transmettent ainsi les connaissances. Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est la même chose pour les hommes. Nous avons vocation à coopérer les uns avec les autres. C'est également dans ce but, si vous voulez, que Dieu n'est pas, je le dis dans des termes un peu choquants, Dieu n'est pas communiste, au sens où, s'il faut bien sûr mettre des choses en commun, bien sûr, il n'y a pas d'égalité. Dieu ne nous a pas créés égaux. Il ne nous a pas créés égaux en qualité, il ne nous a pas créés égaux dans les dons qu'il a pu nous donner. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout cela, nous avons à coopérer les uns avec les autres. Hein ? On peut le prendre du terme de l'école, hein ? Le professeur doit enseigner les élèves, hein, puis après ces élèves vont devenir grands et puis on va ainsi se transmettre aussi le savoir. Ça veut dire qu'il faut faire attention, j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où l'individualisme commence à vraiment se répandre, là ça devient beaucoup plus majeur encore, que du coup on aurait l'impression qu'il y a d'abord l'individu seul et que l'individu seul il peut s'en sortir, ce qui est profondément faux. On le voit avec le cas du nourrisson qui a besoin de son père et de sa mère, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin pour apprendre, pour connaître, d'être éveillé, et puis il a besoin aussi d'avoir des amis de son âge. Vous voyez, on est fait véritablement pour vivre en société. On peut le dire du point de vue animal, hein, on est grégaire, on doit vivre en troupeau. Et ça, c'est aussi voulu par le Créateur. Donc, on verra un peu tout ça, c'est-à-dire la complémentarité de ce qu'on va appeler après un unique ordre, un ordo, donc le même mouvement, dans lequel il va y avoir l'organisation naturelle de la société et l'organisation surnaturelle. L'organisation naturelle, pour nous, on pourrait dire, c'est la France, l'État français. Ça ne veut pas dire tel et tel régime politique, c'est l'État français. Et puis pour nous, quelle est cette communauté surnaturelle ? C'est l'Église. Alors ça ne veut pas dire que... Alors l'Église, du point de vue de la fin à parcourir, elle est au-dessus, au sens où c'est la vision de la fin surnaturelle, mais il y a aussi une vie autonome. Dieu laisse une autonomie pour gérer les lois, pour aller vers le bien. Voilà. Donc tout cela, il faut le tenir ensemble. Donc, je vous disais, avec Adam et Ève, les hommes ont pour vocation à coopérer les uns avec les autres, tout comme chaque personne créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit aussi coopérer avec Dieu pour mériter la vie éternelle. Mais voilà, c'est là où on voit qu'il y a les deux. Comment est-ce que je peux faire pour mériter la vie éternelle ? Mais c'est justement en coopérant les uns avec les autres. Hein ? Comme dit le Seigneur, en allant visiter dans l'économie non plus originelle de la rédemption, en allant visiter les malades, en allant visiter les prisonniers, parce que dans l'économie originelle, il n'y a ni maladie ni prisonnier. Donc il faut tout préciser, en nous efforçant eh bien, d'aider tel et tel... Voilà, c'est comme ça aussi que l'on coopère avec les autres et que du coup on coopère avec Dieu. Mais ce que je dis là en germe, c'est en fait ce que le Seigneur enseigne dans la loi de l'amour. Hein, il nous dit, il faut aimer Dieu, il faut aimer le prochain, et ce à quoi le Seigneur enracine tout cela, c'est d'abord l'amour de soi. Hein, plusieurs fois il nous dit, il faut aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a d'abord une estime de soi, un amour de soi. Et aujourd'hui, on pourrait être un peu mal à l'aise en disant « Non, non, pas l'amour de soi, j'aime les autres, je suis tout donné. » Non, ça doit d'abord commencer par l'amour de soi. Et on l'a vu dans le mystère de Dieu. Dieu, il s'aime. Il y a une communion de l'amour. Le Père aime le Fils dans l'Esprit Saint. Donc, il y a d'abord cet amour de soi. Je dois m'aimer dans une juste mesure. Et comme j'ai coutume de dire dans les prédications, de toute façon, la personne qui ne sème pas dans une juste mesure, elle est de toute façon infecte pour les autres. Parce qu'elle n'est pas ajustée dans son rapport aux autres, soit va être très vindicative en raison de ce qu'elle a vécu. Il y a des histoires, on n'est plus dans l'économie originelle, on est dans l'économie de la rédemption. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, mais on peut comprendre qu'il peut y avoir des choses qui ont fait qu'elle réagisse comme ça. Ou qu'elle voit les choses de son point de vue à elle, et puis elle a peut-être pas appris à ouvrir, voilà. Donc déjà, l'amour de soi et cet amour de Dieu, ben, il va passer, puisqu'on doit vivre en société, dans cette coopération les uns avec les autres. Alors, comme j'ai dit des choses là qui peuvent paraître un petit peu, comment dire, théoriques, un brin austère, on va reprendre cette idée justement de la coopération les uns avec les autres, de la coopération avec Dieu, en nous mettant à l'école de saint Augustin. Alors, saint Augustin, dans un livre qui s'appelle « De Genesi ad Litteram », il commente la Genèse, les trois premiers chapitres de la Genèse, au sens tout d'abord littéral. Pourquoi ? Parce que saint Augustin, alors là, on doit contextualiser un peu, saint Augustin se bat sur deux fronts. Dans le De Genesi ad Litteram, il se bat pour des gens qui croient en l'autorité des Écritures, on pourrait dire au sens large, ce sont les chrétiens, mais qui refusent au premier récit de la Genèse leur côté de réalité historique. Donc du coup, ils disent, mais non, ça c'est, ça, si vous voulez, c'est des choses trop extraordinaires, c'est des choses qui nous habitent, voilà, la création du ciel, de la terre, qui était là pour le voir, qui... Donc du coup, il y avait quand même une suspicion, mais par contre, attention, quand saint Augustin écrit ce livre, ces gens-là ne s'attaquent qu'à ce début-là. Après, ils ne remettent pas en cause le reste des récits. Ils remettent en cause l'historicité de ces trois premiers chapitres. Ça, c'est dans le De Genesi ad Litteram, là dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre courant, duquel saint Augustin a fait partie avant sa conversion au catholicisme, c'est le courant des manichéens. Alors, les manichéens, on en parlera en son temps, mais pour eux, il y a le Dieu bon, il y a le Dieu mauvais, la création, tout ce qui est matériel est assez mauvais. Bon, donc du coup, il se bat aussi contre eux. Pas dans ce livre, hein. Donc du coup, il a beaucoup travaillé la Genèse. Parce que soit, dit saint Augustin, soit on va le faire au sens allégorique, alors tout est symbolique, c'est pas, il y a de la vérité, mais c'est pas une réalité historique. Et là, saint Augustin dit non, 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 non. Pourquoi ? Parce que dans la théologie chrétienne, le sens allégorique s'enracine toujours dans le sens littéral. Je le dis souvent dans mes prédications, il y a eu tel miracle opéré par le Seigneur, hein, il a rendu la vue à l'aveugle. Mais ce miracle, qui concerne telle personne à un moment donné, il nous dit aussi quelque chose de ce qui va venir. Parce que nous sommes tous ici-bas sous le régime de la foi, donc du coup on est tous comme aveugles. Parce qu'avoir la foi, c'est ne pas voir encore concrètement les choses. La béatitude, pour le coup, elle, c'est de voir distinctement Dieu. Donc quand le Seigneur guérit un malade, alors il guérit tel malade, tel jour à telle heure, si on avait été comme saint Luc avec une montre et tout ce qu'il fallait pour noter, comme Luc est médecin, il est plus précis, et bien du coup, le Seigneur le fait aussi parce qu'il nous rendra la vue, cette vue qui est pour l'instant cachée, la pleine vision de Dieu. Donc, saint Augustin, voyez, nous dit ceci, si les trois premiers chapitres de la Genèse traitent, on l'a vu, hein, d'événements aussi insolites que la création du firmament, des luminaires, des animaux, ce n'est pas pour saint Augustin un motif suffisant pour discréditer leur historicité. Parce qu'il dit, attention, le caractère merveilleux de tout cela, de ces événements rapportés, provient du fait qu'ils ont été créés, produits pour la première fois. Et qu'ensuite, si vous voulez, les lois de la nature se mettent en place. Alors là, saint Augustin, c'est un livre passionnant parce qu'il se pose des questions. Voilà, alors on nous dit Dieu plante les arbres, mais les plante-t-il déjà en petites graines ? Est-ce qu'il les... Eh oui, il faut se poser toutes ces questions. Je vous le disais pour Adam. On déduit qu'Adam n'est ni un bébé, ni un vieillard. Donc du coup, c'est qu'il est en âge adulte. Donc il faut se poser... Donc il se pose un peu tout ça, toutes ces questions. Pour ce qui nous intéresse, l'une des questions qu'affronte saint Augustin, c'est savoir, mais alors, ce paradis terrestre, est-ce qu'il était géographiquement identifiable ? Est-ce que c'était un lieu spirituel ? Est-ce que... Non, saint Augustin dit, non, non, on nous parle de fleuve. Il y a eu, véritablement, sur la terre que Dieu a créée, un paradis qui est aujourd'hui perdu, non pas géographiquement perdu, mais en tous les cas, on ne sait plus où il était, donc on nous donne le nom des fleuves, donc Saint-Augustin prend ça au sérieux. Je vous lis une petite passage, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse, dans lequel, c'est ce verset-là, « Et le Seigneur prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler et le garder. » Alors, je vous lis juste ce passage qui introduit ce verset. « Et Dieu planta le paradis en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et Dieu fit encore germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du paradis, et de l'arbre de la science du bien et du mal. » J'ouvre une parenthèse, je vous l'avais déjà dit, c'est là où saint Augustin, quand il va commenter cet arbre, il va dire « Mais attendez, on a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal après le péché. Dieu ne l'a pas appelé comme ça, ce n'était pas l'objet de la tentation. » Donc, vous voyez toute cette réflexion que fait saint Augustin. Je continue la lecture de la Genèse. « Or, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le paradis et là se diviser pour former quatre bras. Le premier s'appelle le Fison, il contourne tout le pays d'Elilat, où il y a de l'or. L'or de ce pays est bon, et là se trouvent l'escarboucle et l'émeraude. » C'est-à-dire, l'escarboucle, c'est une pierre précieuse couleur grenat, l'émeraude. Donc, en plus, on nous dit qu'il y a déjà tous ces minerais prestigieux. Le second fleuve s'appelle le Géant, il contourne tout le pays de l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, qui coule le long du pays d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Donc, vous voyez, saint Augustin, il dit non, il faut le prendre au sens littéral, parce que ce sont des fleuves qui existent. Donc, il y a. Alors, c'est un territoire immense, hein, quand on a ces quatre fleuves. Et c'était par là. Bon, c'est grosso modo la Terre Sainte. Hein, dans ses... Et le Seigneur, voilà, c'est là où on arrive. « Et le Seigneur prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler et le garder. » Je continue un peu. « Puis le Seigneur donna un ordre à Adam en disant « De tout arbre qui est dans le paradis, tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car du jour où vous en mangeriez, vous mourriez de mort. » Pourquoi j'ai choisi ce petit verset, parce que saint Augustin va le développer en se posant la question « Qu'est-ce que ça veut dire travailler et garder le paradis ?» Dans l'économie originelle, on est avant le péché. Hein, je relis le verset. « Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis, donc dans ce jardin, pour le travailler et le garder. » Alors du coup, saint Augustin nous dit il y a le travail au paradis avant le péché. Alors du coup, en quoi consiste le travail d'Adam puis d'Ève en paradis avant le péché? Donc il nous dit, déjà, puisque en punition, il y a le travail, mais il y a la pénibilité du travail. Déjà, dans ce jardin, Adam et Ève travaillent, certes, sans que ce soit laborieux. Ça ne leur demande pas un effort. Donc du coup, il y a une conception très positive du travail. Hein. La pénibilité vient après, c'est la punition. Et saint Augustin, il y voit une image, et on le voit particulièrement chez nous dans nos campagnes, je lis ce que dit saint Augustin, « Certains agriculteurs s'adonnent avec tant de plaisir au travail de la terre qu'ils ne l'abandonnent qu'à contre-cœur pour d'autres tâches. » Il y a encore quelques jours, j'ai enterré un agriculteur sur les hauteurs de nos coteaux, et c'est ce qu'a dit sa famille. Hein, il avait une telle passion pour la terre que du coup, il s'y donnait à corps perdu. C'était vraiment sa passion, son tracteur, labourer, semer, planter, arroser, l'amour de la terre. Et la veuve de dire, mais le problème, c'est que c'est pas que ça, être agriculteur aujourd'hui, il faut prévoir l'avenir, il y a tout un tas de papiers à remplir. Donc elle dit, moi je faisais ça, je faisais tout le reste là. Il avait cette passion de la terre. Et on le voit aussi, peut-être qu'avec les confinements que nous avons vécus, c'est peut-être revenu sous d'autres problématiques, sur le fait aussi de se dire, ben, on aime bien avoir notre petit lopin de terre, nos quelques fleurs, nos quelques fruits, légumes. Bon. Donc du coup, il y a peut-être une nostalgie quelque part dans ce souci de la terre, de cette vocation première qui était celle d'Adam en paradis. Quand je dis que ce travail, du coup, est quelque chose qui n'est pas laborieux, il faut aussi comprendre que la nature est exubérante en paradis, au sens où il n'a pas besoin de cultiver pour manger. C'est-à-dire que tout est une riante moisson permanente. Donc du coup, il y a vraiment une liberté dans ce travail. Nous, aujourd'hui, on travaille, c'est saint Paul qui le dit, que celui qui ne veut pas manger, Non, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Or, j'apprends que parmi vous, beaucoup sont affairés à rien faire. Je ne sais pas si saint Paul pensait parfois aux réunions entre prêtres, mais il y a parfois beaucoup de réunions où je trouve qu'on est affairé en ne faisant pas grand-chose. Ou peut-être des synodes aussi, dans lesquels on est affairé à pas grand-chose. Donc là, on voit que du coup, pas de pénibilité du travail, hein, il y a un charme vraiment de la découverte, si vous voulez, de ce travail. C'est ce que nous dit saint Augustin, il nous dit, mais voyez, le travail, il est défini comme une collaboration de l'homme à la création divine. Il collabore comment ? Eh bien, en expérimentant toute la puissance qu'il y a dans la petite graine, dans les greffes, les possibilités qui s'offrent à lui, de pouvoir voir les saisons, comment ça s'arrose, comment... Qu'est-ce que fait Adam ? C'est pas pour travailler, c'est pas pour... Mais il loue le Créateur. Parce qu'il se rend compte de ce monde que Dieu a créé. Quand je vous dis Dieu n'est pas communiste, c'est-à-dire tous les fruits ne se ressemblent pas. Regardez les merveilles que nous avons en automne aujourd'hui. C'est aussi que cette création procède de l'amour. Tous les arbres n'ont pas les mêmes feuilles, la même hauteur, les mêmes branches. La nature, on le voit, s'adapte. Il n'y a qu'à voir comment des racines peuvent mettre le goudron, nos routes goudronnées, à sac. Parce qu'il y a cette vie de la nature. Je vous parlais tout à l'heure puissance et acte. Vous regardez un gland de chêne et vous vous dites que toute la puissance du chêne que vous avez en face, qui a plusieurs années, voire siècles, non, n'exagérons pas, mais enfin, des années et des années derrière lui, ben, tout est en puissance dans un petit gland. C'est ça le travail d'Adam, c'est-à-dire que ce travail donc est gratuit, il ne travaille pas pour subvenir à des besoins corporels, il le fait de bon cœur. Et son travail, du coup, il ne concerne pas son corps, puisqu'il ne s'agit pas de manger. Non, ça concerne, c'est un travail de l'âme. C'est l'art et la faculté de travailler, c'est-à-dire, nous dit saint Augustin, la faculté de collaborer à l'art, à l'œuvre, pardon, de la création. Et c'est du coup, l'expertise d'Adam, c'est du coup l'art de louer le Créateur. On se rend compte de tout ce que Dieu fait. Donc, en effet, saint Augustin nous dit, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire, Adam ? Mais il va semer, il va planter les rejetons, il va transplanter les arbustes, il va greffer les boutures, il travaille la terre, mais par plaisir. Et surtout, ce n'est pas un esclavage pour lui, parce que tout ça, c'est le péché. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, il y a vraiment le travail, et ce travail qui est de l'âme, qui me permet de remonter au Créateur. Il y a vraiment, on pourrait dire, que le travail au paradis, il est confessionnel, dans le sens où, quand Adam et Ève œuvrent comme ça dans le jardin, ben, ils sont sans cesse en dialogue avec le Créateur. Hein, c'est un peu des fois le psaume de la création qui a pour refrain « Mon Dieu, vous êtes grand, vous êtes beau ». Mais c'était ça, cet émerveillement total. Dieu n'a pas fait un monde comme ça, un peu à l'économie, où tout se ressemble. Non, dans une immense variété, c'est bien là où on voit qu'il procède de l'amour. Je réfléchis quelque peu. Parce que nous n'allons pas avoir le temps de faire la seconde partie de la... Mais on l'aura la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Oui, du coup, la semaine prochaine, on verra. Donc là, il nous parle déjà du travail. Ensuite, une des questions qu'affronte saint Augustin, c'est de se dire, bon, une chose est de travailler le paradis, mais je vous rappelle que le verset nous parle aussi de garder le paradis. Hein ? Le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler, ce paradis, et pour le garder. Et saint Augustin se dit, mais attendez, en quoi consiste la garde du paradis ? Au commencement, il n'y a pas de disharmonie avec les animaux, donc il n'est pas en train de garder, voyez, ces jolies roses du Créateur, les arbres, des chèvres qui viendraient manger, ou des biches, ça c'est encore pire, qui viendraient manger les feuillages, les fruits, non. Il n'y a pas de disharmonie, ça c'est une conséquence aussi du péché, que cette disharmonie entre l'homme, les animaux, l'homme, la nature. Alors du coup, de quoi faut-il le garder ? Je vous disais tout à l'heure, Saint Augustin, est embêté avec cette idée de garder le paradis. Il tourne un peu autour du pot, et je vous ai dit, pour saint Augustin, la vie commune, elle vient après le péché. Et quand saint Thomas d'Aquin nous dit... La vie commune commence avec Adam et Ève qui sont à la tête du genre humain. Qu'est-ce qui manque un peu à Augustin ? C'est de se dire que Adam et Ève, ils doivent garder le paradis au sens où ils doivent le garder dans cette dans cette harmonie, dans cette beauté, ils doivent garder ce travail intérieur et c'est ça qu'ils vont devoir aussi transmettre à leur enfant. Hein? Alors c'est des problématiques qui reviennent aujourd'hui et qu'on n'aurait jamais dû oublier, mais étant donné qu'on a mis Dieu de côté depuis déjà quelques siècles maintenant en notre France et en notre monde, du coup aujourd'hui on a l'impression que le désenchantement du monde par cette période de grande productivité qu'a été l'ère industrielle, aujourd'hui on a l'impression que le monde est désenchanté. Je veux dire, quand on voit quelques vacanciers qui viennent après un salon de l'agriculture, qui voient les troupeaux, qui prennent en photo les cochons, ça fait un peu rire les gens de la campagne en se demandant « mais ils n'ont jamais vu des animaux ?» Eh bien, ça ne fait peut-être pas partie de leur mode de vie à eux. Donc du coup, il faut garder pour Adam et Ève ce monde, mais le garder aussi en respectant les lois, hein, de ne pas dénaturer ce jardin. Adam et Ève sont des êtres rationnels. Hein, ça veut dire qu'ils vont... De par leur intelligence, et c'est aussi ce que le bon Dieu attend d'eux, ils vont bâtir une société, ils vont construire à partir des arbres, tout ce qui fait notre vie hein, d'aujourd'hui, se transmettre des connaissances, du coup il faut expérimenter la création, voir quelle est la puissance, tout expérimenter, bâtir, construire. Et je pense que c'est dans ce sens, et c'est ça que rate un peu Augustin, en se disant le garder, alors il est embêté, parce qu'il se dit mais c'est pas les serpents, c'est pas les animaux, c'est pas garder autant de faire un mur autour du jardin, c'est déjà un jardin délimité. Non, je pense que c'est le garder aussi dans cette vie intérieure qui l'unit au Créateur, hein, de bien conserver ce dialogue entre la création, la créature qui est Adam, et qui nous conduit au Créateur. Hein, c'est là où on voit aussi que, du coup, on est déjà conduit à notre fin. Et puisque je vous disais que cette vie sociale de société, ça va être de coopérer les uns avec les autres, mais que vont devoir faire les descendants d'Adam ? Là, que l'on soit dans l'économie originelle ou dans l'économie de la rédemption, eh bien, on va devoir se transmettre la connaissance. Parce que ce n'est pas simplement un être humain, seul, ou une seule famille, qui vont pouvoir porter les connaissances du monde. Si aujourd'hui, nous avons des connaissances scientifiques, ben, mes amis, c'est parce qu'on est en l'an de grâce 2021 et qu'avant nous, il y en a eu des civilisations et qu'on s'est transmis les savoirs d'architecture, d'agriculture, de médecine, et tout cela a demandé de l'expérimentation. Donc, je reprends ce petit verset. « Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé, le plaça dans le paradis pour le travailler et le garder. » Donc là, saint Augustin nous donne quand même un certain nombre de clés aussi pour comprendre quelle est notre fin. Ben notre fin, le but, pourquoi nous sommes ici-bas dans le monde, ça va être à la fois d'aimer comme Dieu aime, de nous émerveiller de cet amour de Dieu, mais également de le transmettre en coopérant les uns avec les autres, eh bien, à instaurer un monde plus juste. Quand le Seigneur Jésus vient nous parler du royaume de Dieu, il ne nous dit pas « le royaume de Dieu, il est là-haut, et vous êtes ici-bas, ce n'est pas le royaume de Dieu ». Quand le Seigneur Jésus est là, il dit « le royaume des cieux est parmi vous ». Non seulement parce que le Seigneur est là, en tant que le Seigneur Jésus, mais aussi parce que nous sommes appelés à faire le bien et à vivre de cet amour de Dieu entre nous. Alors on va voir après le péché, immédiatement, Caïn et Abel sont très jaloux, parce que Dieu va préférer l'un des deux cadeaux des deux frères, et l'autre va aller en tuer un. Donc du coup, on va voir qu'après, cette disharmonie va arriver très vite. Je conclue sur deux points. Sur celui avec les animaux, on va rentrer dans le temps de l'Avent et on va réentendre des descriptions qui nous conduiront à la fin des temps. Je pense à un passage d'Isaïe dans lequel on nous dit « Le lion jouera avec l'agneau, le petit enfant mettra sa main sur le nid du serpent, ne sera pas piqué. » Tout ça pour nous dire en fait que ce qu'il y aura dans la vie éternelle, enfin dans cette harmonie retrouvée, elle est déjà dans l'économie originelle. Ève n'a pas peur du serpent en disant « Ouh, ce serpent est mauvais, il va me piquer ». Elle n'a pas peur, elle parle avec lui. C'est qu'il y a quelque chose qui ne l'effraie pas. Hein, elle est entourée d'animaux. On voit aussi qu'Adam et Ève, et puis c'est Adam qui doit nommer les animaux, il y a aussi, bien, parce qu'aujourd'hui on entend tellement de choses sur les animaux, alors l'avortement, on s'en fiche, les embryons, et on va bientôt se battre pour sauver les petits cochons et le reste. Bon. Donc on voit bien qu'il y a aussi un ordre dans la création que les animaux sont faits pour l'homme. La semaine prochaine, nous verrons que nous n'avons parlé ici que d'une première partie de l'interprétation de saint Augustin, parce que cette phrase « Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler et le garder » peut avoir une autre interprétation. Là, on a vu Dieu, sujet, place l'homme dans le jardin pour travailler, sous-entendu, le jardin et pour garder le jardin. Mais on verra aussi que tout autant, c'est Dieu qui travaille et qui garde l'homme. Je vous relis la phrase, vous verrez qu'on peut l'entendre dans ce sens. C'est pour ça que je vous disais, je vous parle de la coopération et de la nature, de la grâce, de la gloire. Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait créé, Dieu prend l'homme, il place l'homme dans le jardin. Pourquoi Dieu place l'homme dans le jardin ? Pour travailler l'homme et pour le garder. Et on voit que là, du coup, saint Augustin, en méditant ce verset, en découvre une saveur que je vous laisse déjà toute cette semaine mariner un peu pour se dire, mais oui, Dieu me travaille, Dieu me garde.